Sans doute, la circulation des hommes est-elle, pour l'historien du Proche-Orient antique, une réalité particulièrement difficile d'accès, privée que nous sommes, le plus souvent de textes narratifs. Nous ne possédons, par exemple, aucun récit de voyage. À cet égard, le premier millénaire semble offrir des possibilités d'investigation privilégiées puisque les annales royales permettent des recherches détaillées sur les mouvements de population, autrement dit, pour l'essentiel, sur les déportations. Mes recherches depuis 1976 sur les archives paléo-babyloniennes ont cependant fourni un certain nombre de pistes que je voudrais aujourd'hui explorer une nouvelle fois en tenant compte, comme toujours, des textes récemment publiés qui permettent de compléter nos connaissances de manière considérable, vous allez le voir, pour certains des dossiers. Le constat est clair, la population de la Babylonie au XVIIe siècle avant notre ère était très mélangée, mais les situations très différentes. C'est un problème général de l'histoire des civilisations que celui des gens déracinés. Encore faut-il introduire des distinctions entre différents types de brassage des populations. Alors, on peut retenir trois catégories différentes, il pourrait y avoir d'autres typologies. Les immigrés qui viennent d'ailleurs, mais plus ou moins de leur plein gré, espérant vivre mieux là où ils arrivent. Les exilés ou réfugiés qui ont dû quitter leur pays en raison de problèmes qu'ils y rencontraient. Et enfin, les déportés, dont le cas se distingue du précédent en ceci qu'ils ont été arrachés à leur pays d'origine par le pouvoir régnant dans leur pays d'accueil. Mais on voit en même temps la limite de ces catégories. Que faire des esclaves achetés à l'étranger ? Ce ne sont pas, à proprement parler, des déportés, et pourtant, on verra, ils jouent un rôle non négligeable. Alors, nous allons commencer par étudier les groupes dont les ancêtres avaient dû quitter le sud du royaume de Babylone après l'an 11 de Samsu-iluna, prolongeant ce que nous avons déjà vu l'an passé. Nous verrons ensuite comment vécurent les membres du clergé de Nippur qui durent se réfugier à Dur-Abiyeshur dans le courant du règne d'Amiditana et qui y restèrent jusqu'à la fin de la dynastie. Et nous terminerons par diverses autres catégories d'étrangers, les descendants de déportés, les mercenaires et les esclaves. Une catégorie sûrement importante numériquement dans la Babylonie du XVIIe siècle était constituée par les personnes réfugiées du sud sumérien. J'entends par là les habitants du sud de Sumer qui ont dû quitter leur ville dans les années 10 à 12 de Samsu-iluna dans des conditions que nous avons étudiées l'an passé. Alors, il est impossible à l'heure actuelle de chiffrer leur importance, mais elle n'était certainement pas négligeable. Et certains d'entre eux sont bien documentés, à commencer par les descendants des habitants d'Uruk réfugiés à Kish. C'est le dossier le plus fourni, c'est également le premier qui ait été analysé de manière approfondie. Des documents avaient été publiés avant 1972, mais c'est le grand nombre de ces personnes dans les textes publiés dans le recueil YS13, auquel j'ai souvent fait allusion, qui a attiré l'attention sur eux. On trouve en effet dans ces textes, qui datent des rois Abiyeshur, Amiditana, Amitsaduka et Samsuditana, des individus voués au culte de divinités typiques du panthéon d'Uruk, à savoir Ishtar d'Uruk, Nanaya, et Kanisura. Et comme ces textes ont été publiés après les deux articles de Johannes Renger consacrés au clergé paléo-babylonien en 1967 et 1969, il n'en existait pas d'études avant celles que j'ai publiées dans mon livre sur le clergé d'Ur en 1986. Je cherchais à l'époque à faire des comparaisons entre des gens exilés, les gens d'Eridu à Ur d'une part, et puis donc les gens d'Uruk à Kish d'autre part. Et mon travail a été prolongé 12 ans plus tard par celui de Rosolpianka. La présence de ces réfugiés se manifeste par l'apparition soudaine dans les textes de Kish de trois éléments, des divinités originaires d'Uruk, des titres caractéristiques et enfin une onomastique très typée. Le clergé voué à des divinités urukéennes se rattache à trois d'entre elles Inanna-Ishtar, Nanaya et Kanisura. Donc la première, c'est Ishtar-Duruk, dont le nom est écrit de différentes façons, Dingir-Inanna-Unuki, ou encore An-Dingir-Inanna, et puis parfois on ajoute Unuki, donc littéralement Inanna ou Ishtar-Duruk, ou encore phonétiquement Urkitum, qui signifie celle d'Uruk, l'Urukéenne, sous-entendu la déesse d'Uruk. Ishtar était en effet la déesse par excellence de la ville d'Uruk, c'est par elle qu'étaient prêtés les serments dans cette ville, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi à Kish on précise qu'on a affaire à la déesse Ishtar d'Uruk. Eh bien, tout simplement parce qu'il existait une Ishtar locale, parfois désignée comme Ishtar de Kish ou encore Kishitum, celle de Kish, la déesse de Kish, et qui disposait de son propre temple depuis longtemps. Et le temple voué à la déesse Ishtar d'Uruk s'en distinguait, comme le montre un texte qui est daté de l'an 13 de Samsui Ditana et qui mentionne les offrandes régulières du temple de la déesse Ishtar d'Uruk. Les prêtres qui desservaient ce temple étaient nombreux. On connaît des administrateurs Shangoum, des lamentateurs, un barbier, un héros et surtout des purificateurs qui portaient le titre sumérien de Ishib, acadien Ishipum. On sait que la déesse Inanna-Ishtar était identifiée à la planète Vénus. Comme vous le savez, Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil, alors que la Terre est en troisième position, et c'est cette configuration qui fait qu'il nous est impossible d'observer Vénus en milieu de nuit. Dans notre ciel, Vénus suit ou précède de près le Soleil dans sa course, et tour à tour n'est visible qu'en début de nuit à l'ouest, on parle de Vénus du soir, et en fin de nuit à l'est, on parle de Vénus du matin. Et c'est cette invisibilité partielle de Vénus qui explique pourquoi on considérait en Mésopotamie qu'Ishtar descendait aux enfers, une dimension infernale qu'elle partage avec le dieu soleil Utu-Shamash, qui chaque jour traverse les enfers depuis l'Occident où il disparaît jusqu'à l'Orient où il apparaît le lendemain matin. Et de fait, Shamash et Ishtar étaient considérés comme frères et sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mythologie sumérienne, la déesse Inanna était censée avoir donné naissance à Nanaya et celle-ci à Kanisura, ce qui montre bien la proximité de ces trois déesses qui constituent en quelque sorte trois avatars de Vénus. Et de fait, Nanaya et Kanisura, dont le culte est bien attesté à Uruk, sont également attestés à Kish à l'époque paléo-babylonienne tardive. Alors, Piotr Steinkeller a récemment fait le point sur la déesse Nanaya. Attention qu'en dépit de la ressemblance de son nom avec le dieu Nana, elle n'a rien à voir avec la lune. Nanaya est attestée depuis l'époque d'Ur-III. Son culte était à ce moment-là exclusivement situé à Uruk, où elle avait un temple. Et donc, elle était une figure d'Inanna. Et on a une fête du bateau céleste à Uruk qui était célébrée deux fois par an, au mois 7 et au mois 11, qui était un élément majeur du calendrier religieux. La statue de la déesse Inanna-Ishtar était promenée dans un bateau et des offrandes étaient également faites à Nanaya dans son temple. Je précise que le livre d'Abraham Merritt de 1924, La Nef d'Ishtar, n'a pas grand-chose à voir avec la véritable mythologie mésopotamienne, quels que soient ses mérites par ailleurs. Mais revenons au texte de Kish d'époque paléo-babylonienne tardive. On y trouve plusieurs prêtres Shangoum de Nanaya, un chef lamentateur, ainsi que deux prêtres qui portent le titre de Eribitim, littéralement entrant du temple. On passe enfin à la troisième figure, celle de Kanisura, connue dans les sources d'Ur-III comme Dingir Ga'an Surra, et à l'époque paléo-babylonienne comme Kanisura, et j'ai été heureux de voir que dans son article de 2013, Piotr Steinkeller citait une note que j'avais publiée en 1992, où j'ai pour la première fois proposé cette équivalence. heureux qu'il reste encore quelques collègues en poste aux États-Unis. Je ne dirais pas américain parce que Steinkeller est originaire de Pologne, mais enfin, ça explique sans doute pourquoi il lit le français et il utilise nos travaux. Fin de la parenthèse. Kanisura était dans le Panthéon la fille de Nanaya. Et à Kish, on connaît deux prêtres, Shangum, qui sont rattachés à son culte, Suzamiditana et Samsuditana. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on possède une lettre dans laquelle les trois déesses apparaissent ensemble. Je vous la lis. Asin Magir dit ceci, ainsi parle Nabi Enlil, que An-Inanna, donc Ishtar, et Nanaya te fassent vivre pour toujours par égard pour moi. Je viens de te faire porter 730 litres de farine sagou et 30 lignes de farine goussiga, mes offrandes matsratum, destinées aux déesses Aninana, c'est-à-dire Ishtar, Nanaya et Kanisura, mes maîtresses. Donne 10 litres de farine gou à Nidin Ishtar, le prêtre de Kanisura, fais-moi porter une frange de vêtements ainsi que la réponse à ma tablette, je viendrai te voir pour le rituel de l'ouverture de la porte, prie pour moi devant Aninana et Nanaya, mes maîtresses, d'ici X jours, je t'enverrai Rushutum. Donc on voit cette triade formée par Ishtar, Nanaya et Kanisura qui sont désignées par l'auteur de la lettre comme mes maîtresses, et c'est remarquable en ceci que ça correspond exactement aux trois déesses uruquéennes dont on connaît les desservants à Kish à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Et vous voyez que dans cette lettre, Kanisura a une place secondaire qui correspond aussi à ce qu'on constate dans les documents. Il ne peut s'agir d'un hasard. Alors le regret, bien sûr, qu'on a, c'est que cette lettre publiée par Thureau d'Angin dans TCL1 n'a pas de contexte archéologique connu, mais il est très probable qu'elle provient de Kish et qu'elle date de l'époque paléo-babylonienne tardive. Le bilan du clergé d'Uruk, attesté dans les textes de Kish à la fin de l'époque paléo-babylonienne, s'établit donc ainsi. Ishtar d'Uruk possédait des prêtres Shangum, un chef lamentateur, un barbier, un héros et des purificateurs. Nanaya, des prêtres Shangum, un chef lamentateur et des Erib Bitim. Et enfin, Kanisura, un prêtre Shangum. Or, ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces charges sont attestées dans les textes découverts à Uruk même, dans le palais de Sinkashid, donc des documents qui sont antérieurs à l'abandon du site à partir de l'an 11 de Samsu Iluna. Il s'agit en particulier d'un lot de 300 tablettes, dont la plupart ont été retrouvées dans une fosse. Eh bien, parmi ces textes, on a des mentions de purificateur Ishipum d'Ishtar, et on connaît également une légende de sceau du temps de Rimsin. Or, ce qui est intéressant, c'est que Ishtar de Kish n'a pas de prêtre qui porte un tel titre, donc le transfert d'Uruk à Kish est indéniable. On en possède quelques indices supplémentaires. On note d'abord la dévotion au dieu Latarak, qui est bien localisé à Uruk et qui figure comme divinité personnelle sur un sceau qu'on trouve imprimé dans des tablettes de Kish à l'époque d'Amitsaduka. On a également dans l'onomastique Théophore des textes de Kish tardifs, des indices comme quelqu'un qui s'appelle Tsili Urkitum, donc Ishtar d'Uruk est ma protection, ou encore des théophores d'Utsurawasu, qui est également une divinité propre à Uruk, avec Utsurawasu Gamil ou Utsurawasu Nishu, et de très nombreux non-théophores de la déesse Nanaya. Mais sans doute le plus intéressant, et je termine par là, c'est qu'on a des noms comme Uruk Liblout, puisse la ville d'Uruk revivre, ou encore Eanna Liblout, puisse le temple de Léana, qui était le temple d'Ishtar à Uruk, revivre. Et ces noms témoignent manifestement de la nostalgie des exilés pour leur ville d'origine et le temple que leurs ancêtres desservaient. Mais il n'y a pas que les habitants de Kish qui aient quitté le sud et se soient réfugiés en Babylonie du Nord, après que les armées de Samsu-Iluna se furent retirées de leur région. Roselpienka a ainsi relevé des traces de la présence d'anciens habitants de Lagash, également à Kish. Il est question, dans un texte daté d'Amiditana, d'une femme décrite comme chambrière Kisaluhatum de la déesse Bawa. Et Bawa, c'est la déesse principale de Lagash. Vous savez que la ville de Lagash, c'est le site actuel de Al-Riba, alors que c'est Girsu correspond à l'actuel Tello. Et elle a également relevé quelques noms propres, Théophore, de cette déesse. Les données relatives aux réfugiés de Larsa et à leurs descendants sont plus abondantes. Certaines ont trait à Babylone. J'ai proposé d'expliquer la présence d'un prêtre Shangoum de Sugalitum à Babylone, dans un texte qui date de l'an 30 de Samsu-iluna, comme le témoignage de l'exil du clergé de Larsa à Babylone, puisque cette déesse avait un culte important à Larsa. Un nouvel indice de cet exil est fourni par le texte de la topographie de Babylone, qui a été publié par Andrew George. C'est un texte babylonien récent, mais qui mentionne l'existence à Babylone d'un temple d'une déesse qui s'appelle Charat Larsa et qui porte le nom de Emekilib Ur-Ur. Or, à Larsa, sur Imsin, on a un temple du même nom qui est voué à la déesse Belet-Ekalim. La coïncidence n'est sûrement pas fortuite. Je propose d'en déduire que le clergé de Larsa, qui trouva refuge à Babylone, y reconstruisit un temple pour cette déesse dont le nom a été actualisé en fonction du changement de lieu. Belet-Ekalim, c'était clair quand on était à Larsa que c'était une divinité de Larsa. Quand vous vous transposez à Babylone, eh bien, il vaut mieux l'appeler la reine de Larsa. Ça maintient vivant le souvenir de l'origine géographique de la divinité. Mais tous les réfugiés de Larsa ne s'installèrent pas à Babylone. D'autres prirent le chemin de Sippar, et je voudrais maintenant revenir sur le cas de Gémé Assalouri que nous avons étudié déjà à propos de l'avènement d'Abiéchour. Le texte qui la concerne a été publié à la fin de 1997, et donc Roselpienka, dans son ouvrage paru en 1998, n'a pas pu en tenir compte, et il y a une bibliographie abondante à son sujet. Donc vous vous rappelez que cette femme avait été emprisonnée pour dette et libérée en raison de l'acte de Micharoum promulgué par le roi Abiéchour au moment de son avènement. Et en rentrant chez elle, elle découvre que son mari a entre-temps pris une nouvelle épouse et souhaite donc le divorce. Et par conséquent, elle réclame à son époux le remboursement de la dot que son père lui avait versée lors du mariage. Et devant les juges, le mari déclare que les deux servantes qui faisaient partie de la dot sont mortes. Et quand les juges demandent à cette Gémé Assalouri de justifier le montant du reste de sa dot, elle fait une liste d'objets variés, et elle ne peut montrer de tablette, et les témoins qu'elle produit indiquent qu'ils se rappellent bien qu'une dot a été versée, mais ils sont incapables de se rappeler le détail de sa composition. Finalement, une transaction intervient et le mariage est bel et bien annulé. Alors le problème que pose ce document, c'est celui du lieu de sa rédaction. L'instance de jugement est formée par Abou Mouakar, le chef des marchands, et les juges de Larsa. Et le serment du mari doit être prêté dans le temple de Shamash de Larsa. Or, les fouilles de Larsa n'ont pas fourni de texte postérieur à l'an 11 de Samsu-iluna, alors que notre document date de l'an 1 d'Abiéchour, 27 ans plus tard. Alors on pourrait dire, eh bien on s'est trompé, Larsa n'a pas été abandonnée comme on l'a cru, mais plusieurs indices laissent penser qu'on a affaire à des gens originaires de Larsa qui sont réfugiés en Babylonie du Nord. D'abord le fait qu'on précise que le temple de Shamash est le temple de Shamash de Larsa. Quand vous regardez les temples, les textes de Larsa dans lesquels il est question du temple de Shamash, on dit le temple de Shamash, point. Parce que c'est évident que c'est le temple de Shamash de Larsa. Quand vous êtes à Paris et que vous dites la cathédrale Notre-Dame, c'est évident que c'est Notre-Dame de Paris. Vous parlerez de Notre-Dame de Paris si vous vous situez ailleurs. Par ailleurs, on observe que Gemea Salouri ne possède plus la tablette de sa dot, alors que c'est en principe un document qu'on garde dans ses archives. Ses servantes sont mortes. Les témoins disent que la remise de la dot s'est passée il y a longtemps. Et donc, on se dit que le mariage pourrait bien avoir eu lieu à Larsa avant l'exil de l'an 12 de Samsuiluna. Et au passage, ce texte devient très intéressant pour la question de la mémoire collective, puisque les témoins de ce mariage qui aurait eu lieu au moins 27 ans auparavant se souviennent bien qu'une dot a été donnée, mais sont incapables de se rappeler de quoi elle était composée. Mais où donc le jugement fut-il rendu ? L'éditeur du texte, Michael Yursa, avait indiqué qu'il s'agissait de Sippar pour des raisons muséographiques, et son hypothèse a été confirmée par Franz van Koppen, qui a trouvé d'autres références à Abou Mouakar, chef des marchands, montrant qu'il était le chef des marchands de Sippar à cette époque. Donc, on a bel et bien affaire à l'histoire de réfugiés venus de Larsa et qui se sont retrouvés à Sippar. Alors, on ne peut pas chiffrer le nombre de personnes ainsi déplacées, mais on voit qu'elles formaient une sorte de communauté en exil qui n'était pas encore assimilée au reste de la population, puisqu'elle avait gardé ses instances juridictionnelles et ses lieux de culte. Et on en a encore un autre exemple, je pense, avec ce texte de Dilbat ou de Kish qui date d'Abi Eshour et qui mentionne le Karoum, c'est-à-dire le groupe des marchands d'Uruk. Alors, certains proposent de dire que c'est la preuve qu'il y avait encore des gens à Uruk et qu'il y avait des échanges commerciaux entre le sud et le nord à cette époque-là. Personnellement, au vu de la mention des juges de Larsa attestés à Sippar sous Abi Eshour, j'aurais tendance à penser que ce sont des marchands qui font partie des réfugiés d'Uruk et qui ont gardé leur guilde dans la ville d'Ilbat ou Kish où ils s'étaient installés. Pendant longtemps, aucune trace n'a été retrouvée des habitants d'Ur qui, eux aussi, ont dû quitter leur ville après l'an 11 de Samsuiluna. Vous vous rappelez ce qu'on a vu il y a quelques années. Eh bien, en 2002 a été transcrit un fragment de liste de rations du British Museum, un document de Sippar qui mentionne des rations du temple de Shamash et d'un prêtre Erib Bittim de ce sanctuaire, mais aussi d'un individu qui est qualifié de prêtre Shangoum de la déesse Ishtar d'Ur. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier la lecture de ce texte, mais si la lecture est juste, eh bien, ça voudrait dire qu'il y a au moins une chapelle au sein de l'Ebabar de Sippar, le temple du dieu Shamash, qui aurait accueilli le culte d'une divinité d'Ur en exil. Plus récemment, Seth Richardson a proposé que le temple qui porte le nom de Enitendu, qui est un temple de Nana à Babylone, qui n'apparaît qu'à l'époque paléo-babylonienne tardive, ait été voué au dieu Nana d'Ur. Alors, ça m'intéresserait beaucoup, mais il n'a pu apporter aucun élément probant à l'appui de cette hypothèse, qui reste donc à vérifier. Mais il a oublié un texte très intéressant sur lequel j'avais attiré l'attention il y a longtemps déjà. C'est le fait que dans une maison de Babylone, dans un niveau qui date de la deuxième moitié du règne de Samsuiluna, eh bien, maison qui était occupée par un maître d'apprenti scribe qui s'appelait Marduk Natsir, on a retrouvé une inscription du roi de Larsa, Waratsin, relative à la muraille d'Ur. Et donc, on peut penser qu'il s'agit d'un élément emporté à Babylone par un exilé originaire d'Ur. Il y aurait là donc une trace supplémentaire d'un exil des gens d'Ur dans le Nord. Manifestement, donc, on a affaire à des déplacements de populations qui ont été considérables, et c'est simplement parce que le clergé laisse le plus de traces écrites que ce sont surtout des gens du clergé qui nous sont documentés. Je vous rappelle que sous Samsuiluna, il est également fait mention assez souvent de jardiniers originaires d'Uruk dans la région de Dilbat. Et le document de Sippar que nous venons d'étudier, relatif à cette femme Gemea Salouri, il a l'intérêt de dater de l'avènement d'Abi Eshour, donc peu de temps après l'exil. Mais ce sont surtout les descendants des réfugiés qui nous sont connus, et la question qui se pose, c'est de savoir quelles furent les conséquences à plus long terme de ce phénomène, et notamment du point de vue culturel. Récemment, Seth Richardson a publié une étude à ce sujet, et il a mis l'accent sur les noms d'années des quatre derniers rois de la première dynastie de Babylone, en montrant que les objets voués et la terminologie étaient très clairement empruntés à ce qu'on trouve dans les noms d'années des rois d'Issine et de Larsa, donc dans le sud avant les conquêtes d'Amourabi. Et il attribue ce phénomène à la volonté des rois, à partir d'Abiéchour, de prendre en compte la présence des exilés venus du sud. Mais, comme je l'ai déjà indiqué, il n'a pas tenu compte de la découverte de cette inscription royale de Waratsin à Babylone, qui permet d'envisager de façon concrète la transmission de la tradition sumérienne. Certains exilés auraient emporté avec eux des éléments de leur bibliothèque, permettant ainsi la survie du corpus. Alors, il faudrait bien sûr une longue enquête pour poursuivre dans cette voie. Et puis, on constate aussi la composition de nouveaux textes. Antoine Jacquet a ainsi montré qu'un manuscrit paléo-babylonien d'une lamentation à la déesse Ishtar avait été trouvé à Kish, et il s'agit à peu près sûrement du travail d'un exilé d'Uruk, donc la déesse déplore le fait d'avoir dû abandonner son temple, dans un texte qui a ensuite connu une grande fortune et qui est surtout connu par des manuscrits du premier millénaire. Alors on peut en outre poser quelques questions. La première concerne l'étendue du savoir sumérien en Babylonie du Nord avant l'an 11 de Samsu-iluna. C'est quelque chose sur lequel finalement on n'est pas bien renseigné, mais il me semble que le phénomène de sumérisation, en fait, il remonte à l'annexion du royaume de Larsa par Amourabi. Je l'avais déjà indiqué, on a des inscriptions bilingues précisément en sumérien et en acadien, à partir de ce moment-là. Et la présence de réfugiés à partir de l'an 12 de Samsu-iluna n'aurait fait que renforcer un phénomène qui existait déjà. Et puis, il faudrait réaliser un gros travail de paléographie sur les manuscrits des textes sumériens littéraires issus des fouilles clandestines ou anciennes pour essayer de déterminer ceux qui ont été copiés après le règne de Samsu-iluna et qui, par conséquent, proviennent à peu près sûrement du Nord. Mais ceci, évidemment, serait un travail considérable. J'en viens au deuxième point, qui concerne le clergé de Nippur, réfugié à Dur-Abiéchour. Dans mon livre de synthèse sur l'époque paléo-babylonienne, paru en 2004, j'avais écrit en conclusion de la section consacrée à l'exil des populations du sud sumérien, on doit aussi indiquer que nous ignorons tout du sort des lettrés de Nippur lorsque les archives de la ville se taisent en l'entrant de Samsu-iluna, un exil du même type que celui des habitants du sud se produisit-il. Et je renvoyais au livre de Rosel Pienka ainsi qu'à la recension que j'en avais publiée. Eh bien, un des grands avantages de l'assyriologie, c'est que souvent, de son vivant, on peut avoir la réponse à des questions aussi fondamentales que celle-là. Je vous ai déjà dit dans les cours précédents que le site de Dur-Abiéchour a été fouillé par des clandestins après la guerre du Golfe de 1991 et a livré environ 300 documents qui, pour la plupart, ont été publiés dans Cusas 8 en 2009 et dans Cusas 29 en 2017. Lors de notre deuxième cours, nous avons vu comment le clergé de Nippur, en dépit d'attaques ennemies, resta sur place dans un premier temps avant d'être contraint à se réfugier dans la forteresse royale située non loin de là. Nous avons examiné la semaine dernière les textes qui documentent la vie dans cette place forte des soldats et des devins, essentiellement sous Amiditana et Amitsaduka. Eh bien, les textes les plus tardifs qui proviennent de Dur-Abiéchour semblent avoir constitué les archives d'un prêtre qui porte le titre de Neshakoum, qui était nommé Enlil Mansoum, et qui est mentionné dans pas moins de 24 textes qui couvrent une période de 23 années, de l'an 5 d'Amitsaduka jusqu'à l'an 5 de Samsu-ditana. On le voit acheter des esclaves ou encore des bovins, effectuer des prêts, et également dans un certain nombre d'autres documents. Il est également un des membres de l'assemblée Pourroum de Nippur, mais dans un texte qui est rédigé à Dourabi Eshour. Et on a également des mentions de son frère, Enlil Boubalit, également prêtre Neshakoum, qui était également membre de l'assemblée Pourroum de Nippur et qui est attesté également dans un reçu d'argent et dans un texte de prêt. Eh bien, si l'on regarde la liste des témoins de tous ces contrats tardifs, et notamment donc ceux appartenant aux archives d'Enlil Mansoum et de son frère, on voit les noms et titres de nombreux membres du clergé de Nippur qui s'étaient réfugiés à Dour Abi Eshour. Et on voit la très grande continuité dans la vie de ces gens-là entre ce qu'on connaît de leurs prédécesseurs à Nippur et eux-mêmes vivant en exil. Cette continuité se marque dans l'anthroponymie, dans les titres et dans les pratiques cultuelles. J'ai étudié cela tout récemment, et donc je vous donne maintenant la primeur des résultats d'une publication qui devrait paraître prochainement. L'anthroponymie des textes de Dour Abi Eshour se caractérise globalement par une proportion de noms sumériens qui est inhabituelle à l'époque paléo-babylienne tardive. Et on relève un grand nombre de noms propres théophores qui sont voués aux principales divinités de Nippur. Enlil, Ninurta, Nusku, et même quelqu'un qui est beaucoup plus rare dans l'anthroponymie, Sadarnuna, qui était l'épouse de Nusku, qui a fourni un nom propre. Nous n'avons en revanche aucun nom théophore de la déesse Ninlil, alors qu'à Nippur, on en a pas mal. Et on relève pour finir un nom naophore, Ina Ekur Rabi, qui renvoie au nom du temple d'Enlil à Nippur, qui s'appelait Ekur, littéralement la grande montagne. La continuité avec Nippur se marque aussi dans les charges religieuses attestées. Il s'agit d'abord du titre de Neshakoum, en sumérien Nuesh III, qui ne se rencontre par ailleurs qu'à Nippur et qui est spécifique du dieu Enlil. On a également des prêtres Pachichoum qui sont rattachés à la déesse Ninlil ou à Ninurta, qui était leur fils. Donc on voit par exemple des offrandes qui sont destinées aux offrandes régulières Satukum des dieux Enlil, Ninlil, Ninurta, Nusku et aux fêtes Echechum de Nippur. Et les membres du clergé qui reçoivent ces ovins sont décrits comme les prêtres Neshakoum, les prêtres Pachichoum de Ninlil et les prêtres Pachichoum de Ninurta. Et le lien entre ces deux catégories, il est explicité dans un hymne à Enlil très célèbre, où l'on dit à propos de son temple l'Ekour, « Ces prêtres Pachichoum de l'Apsou sont aptes au rite de purification, ces prêtres Neshakoum conviennent au sacrifice sacré. » Et en dehors des listes d'offrandes, où les deux catégories Neshakoum et Pachichoum sont citées par leur titre mais sans nom propre, on a aussi de nombreuses références à des individus qui portent ces titres. On peut en faire la prosopographie, je vous l'épargne. En ce qui concerne les prêtres Neshakoum, donc, le plus souvent le titre figure seul, mais parfois on a l'indication Neshakoum d'Enlil, notamment sur certains sceaux. L'étude prosopographique donc permet d'identifier pas moins de 20 prêtres Neshakoum attestés pendant une période de 52 années, d'Amiditana 20 à Samsuditana 13, et on voit que plusieurs prêtres Neshakoum étaient en fonction en même temps, on en a jusqu'à 3, et on a également des textes dans lesquels on donne deux noms avec ensuite l'indication « et les autres prêtres Neshakoum, leurs confrères », ce qui montre qu'il y en avait certainement plus que 3 à la même époque. On a d'autres catégories de prêtres, d'abord d'autres des servants d'Enlil, comme des brasseurs ou encore un administrateur Chandabakoum. Et puis, on voit que la parèdre d'Enlil, la déesse Ninlil, n'est pas en reste, puisqu'on a de nombreuses références qui mentionnent ces prêtres Pachichoum. Et il en va de même pour le dieu Ninurta, qui était le fils d'Enlil et de Ninlil, et le dieu protecteur de la ville de Nippur. Alors, il serait bien sûr très intéressant de pouvoir montrer que les prêtres qui sont attestés dans les textes de Dour Abi Eshour sont les descendants de personnes connues à Nippur dans la documentation qui s'arrête en l'an 30 de Samsu-Iluna. En dépit de mes efforts, je n'ai pu trouver aucun exemple, mais quand on y réfléchit, ça n'est pas très étonnant, vu la césure chronologique qui existe dans notre documentation. Le dernier texte de Nippur, en l'an 30 de Samsu-Iluna, est suivi par une lacune de 55 ans, puisque c'est seulement à partir de l'an 20 d'Amiditana qu'on voit apparaître à Dur Abiyeshur du clergé originaire de Nippur, et donc 55 ans, c'est trop pour qu'on ait un lien direct entre les uns et les autres. Malgré tout, la continuité ne fait pas de doute et elle se voit de plusieurs manières dans la piété ou dans les cultes. On peut d'abord citer une lettre sans adresse qui est très intéressante par sa bénédiction. Puisse Enlil, Ninlil, Ninurta et Nuskut tes créateurs te guider, ô mon père, dans la santé et le bien-être. Comme messieurs tes confrères, toi, mon père, viens à mon aide avec une mine de laine, que ce soit ton support pour moi. Alors ceux qui me verront prieront pour toi, mon père, devant Enlil, Ninlil, Ninurta et Nuskut tes créateurs. Eh bien, il s'agit là d'un document qui a été trouvé à Dur Abiyeshur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre texte qui mentionne Dur Abiyeshur et où on trouve une bénédiction par Enlil, Ninlil, Ninurta et Nuskut, les grands dieux de Lécour et de Nippur. Et donc, on voit bien que les bénédictions continuent à se faire dans le milieu des exilés par les grands dieux de Nippur, mentionnés explicitement comme tels, même si la ville a été, à ce moment-là, abandonnée. Les sauts cylindres constituent un élément important pour une approche de la piété des anciens mésopotamiens. Alors, en général, vous le savez, on a une légende qui comporte le nom du propriétaire, le nom de son père, et le nom du dieu ou du roi dont le propriétaire du sceau se déclare serviteur. Mais on a parfois des sceaux qui comportent une prière. Et dans ces cas-là, bien sûr, la divinité à laquelle s'adresse le propriétaire du sceau n'est pas anodine. À Dur Abiyeshur, on rencontre des sceaux prières pour Nuskut, d'une part, et également pour Ninimma, qui est qualifiée dans la prière comme déesse protectrice de Lécour. On voit donc que des desservants du dieu Enlil avaient une dévotion privée à une autre divinité, mais qui appartenait au cercle d'Enlil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaissait déjà des sceaux prières à Nuskut et à Ninimma dans des contrats découverts à Nippur et qui sont datés de Samsu-Iluna. Donc là, on a une continuité dans les piétés qui est tout à fait remarquable. Cette continuité se voit aussi dans les offrandes. Le texte le plus récent de Dur Abiyeshur, qui date de l'an 15 de Samsu-Ditana, montre donc la continuité des cultes longtemps après leur transfert depuis Nippur jusqu'à Dur Abiyeshur. Le début mentionne en effet deux gourdes de grain pour les cours via les Neshakoum, donc ceci concerne le culte du dieu Enlil. Un gourde de grain pour les Kiour. Attention, les Kiour, c'est le temple de la déesse Ninlil, à ne pas confondre avec les cours, les noms se ressemblent mais sont différents, et on ajoute dans le texte « via les prêtres Pachichoum de Ninlil ». Donc il n'y a pas d'ambiguïté. « Un gourde grain pour l'Eshumécha, via les Pachichoum de Ninurta », et nous savons en effet que le dieu Ninurta avait à Nippur un temple qui s'appelait l'Eshumécha. Mais tout ceci, se trouve à Dur Abiyeshur. On a ensuite la mention de militaires qui sont bien connus dans d'autres textes de Dur Abiyeshur, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, c'est très intéressant, puisque ce texte est le seul qui nous mentionne les noms des temples de Nippur, mais manifestement à Dur Abiyeshur. Alors, les éditeurs de la tablette ont eu un commentaire un peu mitigé. Ils disent « Vandlerberg et Wöth, donc dans la publication de Cusas 8, considèrent la mention de l'écour dans ses archives comme un nouvel écour dans Dur Abiyeshur. Cependant, disent-ils, on ne peut exclure l'hypothèse que, bien que le système administratif des temples ait été mené à partir de Dur Abiyeshur, le culte dans les temples a continué à Nippur même si la ville était alors en grande partie abandonnée. » l'ensemble du dossier permet de dire que cette deuxième hypothèse est beaucoup moins vraisemblable. On a affaire à un transfert réel et pas seulement à celui de l'administration. Ce qui est tout à fait regrettable, bien sûr, c'est qu'on ait affaire à des fouilles clandestines, puisque les fouilleurs sont manifestement tombés sur les maisons du clergé, vraisemblablement aussi sur les temples, et malheureusement, tout ceci nous sera sans doute pour toujours inconnu, à moins que, par hasard, leur destruction n'ait pas été aussi terrible et qu'un jour, en reprenant la fouille de sites pillés, eh bien, on arrive à tomber sur un lot de textes qui leur est échappé et qui permettent d'en savoir plus. Malgré ces éléments de continuité avec la sumérienne Nippur, on relève aussi quelques éléments montrant une influence babylonienne. Mais ce n'est pas grand-chose. On voit par exemple qu'un prêtre pachichoum de Ninlil s'appelle Gimil Marduk, donc un nom théophore sur le nom du dieu de Babylone. On a aussi un autre prêtre, un Eshakoum, qui est nommé Ina Esagil Zeri, et l'Esagil, c'est le grand temple de Marduk à Babylone. Et enfin, on a un sceau où un individu se définit comme celui qui prie le dieu Marduk. Le principal changement est de nature linguistique. Alors que les textes juridiques de Nippur jusqu'en l'an 30 de Samsu-iluna sont marqués par la fidélité à la rédaction en sumérien, ceux de Dourabiéchour se caractérisent par l'abandon de cette langue et les tablettes de Dourabiéchour ressemblent absolument à toutes les autres tablettes paléo-babyloniennes tardives. Et à cet égard, le procès Qusas 10-17 offre un mélange absolument fascinant entre la tradition juridique propre à Nippur et une certaine forme de modernisme. La fin du texte le décrit comme un dit-il-là, c'est-à-dire procès terminé, c'est la façon sumérienne de faire depuis le troisième millénaire. L'affaire se passe devant l'assemblée Pourroum de la ville, en présence du dieu Ninurta. Tout cela nous renvoie aux usages anciens de Nippur, mais le texte est rédigé en langue akkadienne. Enfin, il faut mentionner le désir des exilés de retourner dans leur ville d'origine. Donc j'ai déjà parlé des noms propres, Uruk Liblout ou Eana Liblout. Eh bien, on rencontre pour les réfugiés de Nippur la même chose. On a le nom propre Nippur Liblout, puisse Nippur revivre. Et on a également un deuxième nom propre qui est en sumérien cette fois, Duranki Reti, puisse Duranki revivre. Duranki, ça peut être soit le nom du temple de la déesse Inanna à Nippur, soit la ville même de Nippur, mais quoi qu'il en soit, c'est un nom qui témoigne, là encore, de la nostalgie d'un exilé, ancien habitant de Nippur. Donc on a vu que l'exil était effectif en l'an 18 de Amitsaduka, mais il ne semble pas que la restauration de Nippur espérée par les exiliés ait eu lieu avant l'époque kassite. Et je terminerai en citant la légende d'un sceau qui est révélatrice de l'état d'esprit des exilés, Nana Mesha, celui qui prie pour Marduk. Donc on avait dit que c'était intéressant par rapport à Babylone, mais il ajoute « puisse-t-il voir le renouveau de l'Ekour ?» donc le temple d'Enlil, et de Nippur. La dernière catégorie que je voudrais examiner avec vous aujourd'hui, c'est celle des étrangers, et on va commencer par la question des déportés et de leurs descendants, avec le cas des Hourites près de Dilbat. Il se trouve en effet que dès la publication de VS7 en 1909, Ungnad s'est rendu compte que dans les documents paléo-babyloniens tardifs de Dilbat figuraient des individus porteurs de noms hourites qui n'étaient pas des esclaves. Alors, la langue hourite est attestée dès le troisième millénaire, mais surtout au deuxième. C'était la langue des souverains du Mitanni dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et pendant très longtemps, en dehors de la longue lettre trouvée à El Amarna, qui date du XIVe siècle, les témoignages de cette langue ont surtout été des noms propres. Et puis en 1983, on a eu une série de bilingues en hourite et en hittite qui ont été découvertes à Hattusha, qui ont relancé l'étude de la langue. En 2001, on a découvert sur le site de Katna des lettres qui mêlaient de façon surprenante les langues akkadiennes et hourites. Mais si on revient au nom Hourite de Dilbat, il faut dire que leur étude avait été reprise par Gelb en 1944, qui était parvenu à la conclusion que je cite, « Les Hourrites, dans ces documents, semblent former une colonie centrée autour de cette seule cité. » Et dans le premier article que j'ai publié, en 1977, j'avais repris l'analyse de ces noms propres, dont le nombre venait d'être augmenté par la publication d'YOS 13 par Finkelstein. J'avais abouti à une liste d'une douzaine de noms hourrites sûrs. Ces noms ne figurent pas dans le recueil récent de Thomas Richter parce que celui-ci s'est limité aux noms hourrites paléo-babyloniens attestés dans des textes provenant du Moyen-Euphrate et de Mésopotamie du Nord. Et évidemment, c'est un peu dommage puisque ces noms, en réalité, sont également des témoignages concernant la Mésopotamie du Nord. On va voir tout de suite pourquoi. J'avais souligné que dans cinq cas, les noms étaient ceux des pères d'individus qui jouaient un rôle dans le texte. On voit Wedumliblut, qui est un bon nom babylonien, fils de Agaptaré, qui est un nom hourrite, ou encore Shamashmagir, nom babylonien, fils de Agaptaré. Et il n'y a que un nom qui soit l'inverse. On a aussi une mention qui est très intéressante, c'est celle de Etelpu, le frère de Dupachenna. Etelpu, c'est un nom babylonien, Dupachenna, c'est un nom hourrite, et donc on voit que dans une même famille, à ce moment-là, on pouvait donner aussi bien un nom hourrite qu'un nom babylonien. L'étude prosopographique à laquelle je m'étais livré montrait que les individus porteurs de noms hourrites, ou bien ceux dont le père avait un nom hourrite, paraissaient bien intégrés à la société babylonienne, et donc parler de colonie hourrite était certainement exagéré, et leur cas était très différent de celui des Cassites mentionnés dans les textes de la même époque. Et puis ce qui était curieux, c'était que on ne retrouvait pas de nom hourrite dans la documentation de Sippar ou de Kish de la même époque. Et donc, la question était de savoir, mais enfin, d'où venaient ces gens-là? Eh bien, la suite de la documentation a permis de donner la réponse, avec notamment l'apparition d'YOS 12. Ce sont des textes qui appartiennent aux archives de Palmeray, dans la région au sud de Dilbat, dont Franz van Koppen a montré qu'ils étaient originaires de Tel Abu Antique, qui s'appelait dans l'Antiquité Picassi, et c'est un site tout près de Dilbat. On avait notamment des documents administratifs illustrant la livraison de dates à des Touroukéens. Et les Touroukéens sont des gens qui, au départ, se situaient dans les montagnes du Zagros, au nord-est d'Arapra, l'actuel Kirkouk. Et on avait aussi d'autres lettres qui mentionnaient des gens originaires de Kakmoum ou d'Arapra et qui étaient intégrés dans les maisons de jardiniers, donc Kakmoum, Arapra, Touroukéen. Ça rappelait tout à fait le nom de l'an 37 d'Amourabi, année où le roi Amourabi, grâce à la grande puissance de Marduk, a renversé au combat les armées de Turukkum, Kakmoum et du pays de Shubartum. On voit donc qu'Amourabi avait mené une vaste opération militaire dans les régions situées au nord-est du Tigre, région qui était alors ouritophone, on le sait par ailleurs, et les gens originaires de Kakmoum, d'Arapra, ou encore les Touroukéens, qui demeuraient dans la région de Dilbat à l'époque de Samsouilena, étaient, selon toute vraisemblance, des prisonniers, des déportés, faits par Amourabi après cette campagne militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la documentation de cette région, sous les derniers rois de la première dynastie, on trouve encore des références à des Touroukéens. Dans un texte d'Abiéchour, on voit un individu dont la propriété de quatre champs est confirmée. Eh bien, l'un des voisins, c'est Ibnia le Touroukéen. Dans un autre texte administratif, on voit cinq cycles d'argent pour les Touroukéens, en l'an 17 d'Amitsadouka. Et enfin, on voit dans un texte qui date de l'an 11 de Samsouditana, parmi les apports d'argent énumérés dans le texte, 10 cycles d'argent par l'intermédiaire de Sini Ibni le Touroukéen. Donc, des gens qui sont propriétaires de champs, qui portent désormais des noms babyloniens, comme Ibniya ou Sinibni, donc qui manifestement ont été intégrés à la société babylonienne. Leur importance numérique reste difficile à estimer, mais pour qu'on en ait autant de traces, c'est qu'elle n'était pas négligeable. Donc, on a des descendants de déportés. On a aussi des mercenaires. J'en ai déjà parlé, et on y reviendra dans le dernier cours, notamment à propos des Cassites. Et on a également des esclaves, et je voudrais terminer en indiquant ce qu'on sait à leur sujet. Alors, d'abord, il faut bien dire qu'il n'y a rien de nouveau à la présence d'esclaves. L'esclavage domestique, c'est une constante dans la Babylonie, au moins à partir du début du deuxième millénaire. Les esclaves servaient notamment à approvisionner les maisons en eau, à moudre la farine chaque jour, qui servait à la nourriture de la maison, à aider également aux soins corporels. Les esclaves étaient chargés de laver les pieds de leur maître lorsqu'ils venaient de l'extérieur. Et donc, posséder un ou plusieurs esclaves, c'était la marque de l'aisance, bien que on ne puisse malheureusement pas faire de statistiques sur le nombre de personnes qui possédaient des esclaves, ni sur le nombre d'esclaves possédés en moyenne. Alors, on a un corpus de contrats de vente d'esclaves pour l'époque paléo-babylonienne tardive qui a été étudié par Franz van Koppen en 2004, et il a mis en évidence une réglementation du commerce des esclaves qui semble avoir été instituée à partir du milieu du règne de Samsu-iluna. L'origine de l'esclave a dès lors été systématiquement indiquée. Le scribe signalait qu'il s'agissait d'un esclave né à la maison, on disait en acadien « willid bitim », ou bien, dans le cas d'esclaves nés à l'étranger et achetés à un marchand, on indiquait la ville d'origine. Et puis, on a une clause supplémentaire qui a été introduite un petit peu plus tard, qui disait que l'acheteur avait 3 jours pour mener une enquête, c'est le mot acadien tebitum qui est employé, qui permet de vérifier l'information donnée par le vendeur, et si celle-ci se révélait inexacte, eh bien la vente était annulée. Lorsque Franz van Koppen a publié son étude, il y a 15 ans, le corpus comptait 37 contrats. On peut désormais ajouter 12 autres qui sont tous originaires de Dourabiéchour. Et là encore, vous voyez à quel point la documentation se renouvelle, puisque c'est une hausse de près d'un tiers en 15 ans. Alors d'abord, en ce qui concerne les prix de ces esclaves, on voit qu'ils varient entre un peu plus de 6 cycles d'argent et 32 cycles. Donc une moyenne de 15,42 cycles et une valeur modale légèrement inférieure entre 14 et 14 cycles et demi. Ce qui est intéressant, c'est la différence selon les sexes. Les esclaves masculins valent en moyenne un petit peu plus de 12 cycles, alors que les esclaves femmes valent un peu plus de 16 cycles. Et ceci s'explique puisque les esclaves femmes ont un potentiel reproductif qui est bien sûr intéressant pour les maîtres. Et donc le prix des esclaves femmes tient compte du fait qu'elles vont mettre au monde des enfants et que les enfants d'une femme esclave sont esclaves du propriétaire de la femme esclave. En ce qui concerne l'origine géographique des esclaves, on en voit trois qui sont qualifiés de nés à la maison, deux d'entre eux originaires de Nippur et un de Damroum, une localité proche de Kish. Et ces cas sont intéressants parce qu'ils conduisent à modifier une des conclusions de Franz van Koppen. Dans son corpus, il n'y avait de Willid Bitim que provenant de Babylone. Et il en avait conclu, il avait un corpus de 6 exemples, que c'était la première fois qu'on voyait le nom de la capitale utilisée pour désigner le royaume. Eh bien, en fait, c'était le hasard de l'échantillon. On a des Willid Bitim de Babylone, mais aussi des Willid Bitim de Nippur ou de Damroum. Donc, Babylone, dans ces textes, désigne bien la ville de Babylone et pas le royaume. Et quand on veut désigner une région et pas une ville précise, eh bien, on utilise le nom de la région. On a un texte qui, publié là encore après l'étude de Franz van Koppen, qui parle d'un Willid Bitim du Souroum, c'est-à-dire cette région du Moyen-Euphrate. Par ailleurs, on voit deux esclaves qui proviennent d'un butin, Kishittoum, d'une ville qui s'appelle Kakalla ou Kagala. On aimerait en savoir plus sur les conditions dans lesquelles ce butin fut fait, mais il faut se contenter de ces deux mentions. Et puis on voit des esclaves qui ont été achetés à l'étranger, parfois dans des villes bien connues, comme Suse en Élam, ou encore Andarig, dont le scribe a précisé que la ville faisait partie du Matbiritim. Alors c'est intéressant parce que le Matbiritim, c'est le pays intermédiaire, sous-entendu, entre le Tigre et l'Euphrate, donc la façon de désigner ce que plus tard les Grecs ont appelé la Mésopotamie. Et il y a eu une étude de Finkelstein à ce sujet, et elle doit être modifiée, puisque pour Finkelstein, eh bien, le Matbiritim était situé plus à l'ouest, alors que maintenant qu'on a Andarig, qui est une ville située au sud-est du Djebel Sinjar, eh bien, on voit que c'est bel et bien ce qu'on appelle, en termes géographiques arabes, la Jézirée, qui était désignée ainsi comme le Matbiritim. Et on voit également l'intérêt des mentions du Choubartoum. On voit la ville de Riplat, sans doute Riwilat, la Riwilat des textes de Marie, qui est également mentionnée, c'est-à-dire les régions situé cette fois à l'est du Tigre. On voit donc à quel point la population de la Babylonie sous les quatre derniers successeurs d'Amourabi avait une population mélangée. La présence d'esclaves achetés à l'étranger était sans doute une constante, et c'est le fait que leur origine fut notée dans les contrats qui est nouveau. En revanche, on relève un double phénomène de fond. L'un est la conséquence de la grandeur passée du royaume. On trouve les descendants des populations déportées par Hammurabi à la suite de ses grandes victoires. Et l'autre est, à l'inverse, la conséquence des défaites ayant eu lieu sous Samsu-iluna et par la suite, qui a contraint à accueillir dans le nord de nombreux réfugiés venus du sud, dont les descendants étaient toujours visibles en tant que tels sous Samsu-ditana. Enfin, de nombreux mercenaires d'origine étrangère, Cassites et autres, étaient en garnison dans les forts qui protégeaient le royaume contre les dangers venus du dehors, une situation qui n'était pas sans risque, comme nous le verrons en analysant les causes de la chute de la dynastie. En attendant, la semaine prochaine, nous braquerons notre projecteur sur une zone particulière aux marges du royaume, à savoir la région du Moyen-Euphrate, et je vous remercie de votre attention.